Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Moi, je suis optimiste de père en fils. Non, c'est vrai, je prends tout un peu cool, hein. La mort, le reste. Il n'y a que la politique qui réussit à me foutre des boutons et en colère, mais sinon, je suis assez cool, hein. Là, on vient de me piquer mon ordi. J'ai piqué une crise. On dit, ah, oh, les fumiers, le salaud. C'est la troisième fois en plus. C'est ça qui me fout en colère. En plus, moi, je suis emmerdé parce que quand on me pique un truc, je ne veux même pas condamner les mecs qui me le piquent du fait que je les comprends un peu. Mais je suis quand même furax, quoi.
J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir reconnu la voix de Ciné. Bonjour. Ciné, bien sûr, c'est un extrait de ma dernière interview avec lui. C'était un 1er novembre 2013, à la veille de la fête des morts. Ciné nous a quittés en mai 2016, à l'âge de 88 ans. Il a eu le temps de vivre tous les grands moments du XXe siècle et de les raconter, de raconter sa vie d'anard de gauche, une vie d'anard de gauche toujours en verve, hein. Et il racontait ça en dessin et en écrivant à la main. Et l'intégrale des mémoires de Ciné sort en deux gros tomes grand format, réunis dans un beau coffret. Et c'est délicatement édité par mon invité du jour, Frédéric Pajac, des Cahiers dessinés. Bonjour Frédéric Pajac.
Bonjour.
Le Réveil culturel, c'est tous les jours de la semaine de 6h à 6h30 du matin à la radio, ou quand vous voulez, en passant par le podcast et l'écoute en différé, disponible sur iTunes, ou en passant par l'application de Radio France. À la réalisation, Vincent Abouchard, à la coordination, Corinne Amar, et ce matin, à la console technique, Julien Doumanc.
Le Réveil culturel. Lundi, livre.
Et cette semaine, les dessinateurs seront à l'honneur dans le réveil culturel à l'occasion du festival d'Angoulême qui commence en fin de semaine. Ouverture officielle de la 46e édition ce jeudi 24 janvier. Mais bon, Ciné, la bande dessinée, c'était pas trop son truc.
Non, c'est un dessinateur d'humour au départ.
Oui, Frédéric Pajac.
Oui, c'est un dessinateur d'humour, mais c'est un dessinateur nouveau dans l'humour. C'est-à-dire que il y a une tradition du dessin d'humour en France. Qu'on peut dater du 19e, mais même un peu avant, mais avec Daumier et tous ces dessinateurs-là. Mais lui, il a un dessin très particulier qu'on n'avait jamais fait avant parce que c'est un dessin assez simple, en fait, qui vient du dessinateur Saul Steinberg, enfin, qui s'est beaucoup inspiré du dessinateur Saul Steinberg, mais il s'en est aussi très vite détaché.
En disant que pour lui, il ne s'agissait pas d'être virtuose dans le dessin. Hein. Ce qu'il comptait, c'était qu'est-ce qu'on raconte ?
Oui, mais...
Mais il était modeste en disant ça, parce que quand même, les dessins de Ciné, ils sont très bien. En
fait. Ils sont très bien parce que d'abord, il dessine à la plume, ce qu'on ne fait plus beaucoup, parce qu'on dessine beaucoup au stylo feutre. Et donc, il y a un trait, il y a un plein et délié. Et il a quand même fait l'école Estienne, donc il a une solide formation de dessinateur et de metteur en page aussi. Ce qui fait que, par exemple, dans ces mémoires que nous publions, la mise en page, puisque ce sont des textes manuscrits.
Écrits à la main, donc.
Écrits à la main.
Et il rajoute des dessins, des photos.
Voilà. Mais enfin, il met en page ses,
oui,
il
met en scène
ses dessins, etc. Donc il a, on sent chez lui l'homme de métier. On sent que il a de la facilité à composer des pages, ce que tout le monde ne saurait pas faire.
Frédéric Pajac, vous êtes vous-même dessinateur et écrivain, mais vous dirigez en tant qu'éditeur la collection Les Cahiers dessinés. Et c'est cette collection qui sort, qui a décidé de sortir donc les mémoires écrites à la main et agrémentées de dessins et de photos de Ciné dans un coffret de deux beaux grands livres. Vous l'avez connu, Ciné ?
Oui, je l'ai connu un petit peu à la fin de sa vie. Et puis, nous n'avons parlé que de dessins, à vrai dire. On n'a pas parlé de politique. Et justement, on a parlé de Steinberg, on a parlé de Chaval, on a parlé des grands dessinateurs qu'il a
connus. Ah, vous êtes allé chez lui, à Montreuil.
Voilà.
Donc, vous avez vu tout ce qui était encadré.
Ouais. Et puis, et puis, en fait, on a parlé déjà de ces mémoires, qui s'appelaient pas mémoires, qui s'appelaient Ma vie, mon œuvre, mon cul, qui était paru en fascicule d'abord, publié par Charlie Hebdo, puis publié par Ciné Mensuel. Ou Ciné Hebdo d'ailleurs. Et puis, en fait, il souhaitait les réunir. Il savait qu'il allait bientôt mourir, qu'il était malade, et il souhaitait vraiment réunir ses en un volume. Mais bon, en un volume, en réalité, c'est en un volume, mais c'est deux volumes dans un coffret. Mais c'est un seul volume. Ils sont arbitrairement partagé, parce qu'on pouvait pas faire un livre de 800 pages, le tenir à la main, c'est pas très agréable. Mais lui, il souhaitait que les cahiers dessinés l'éditent et qu'il l'édite bien. C'est-à-dire, il voulait vraiment que ce soit une sorte de livre immortel. Et une des questions, c'était que dans les premières parutions en fascicule, les dessins étaient souvent noir-blanc ou accompagnés d'une seule couleur. Et puis, cette couleur était plus ou moins heureuse. Et lui, il souhaitait, au fond, tout mettre en couleur. Mais c'est un travail colossal, c'est qu'on a accompli d'ailleurs. Et c'est un de ses amis, un de ses proches, Thierry Feuillet, qui a fait cette mise en couleur, qui représente à peu près 2400 dessins à mettre en couleur. Et donc, on a cette édition est effectivement une édition qui est selon ses voeux.
À partir de quel moment Ciné décide de raconter sa vie, d'écrire ses mémoires à sa manière?
Alors je crois qu'il a commencé à publier le premier fascicule en 2002, donc il a dû mettre une année pour préparer ça, et il a dû travailler presque jusqu'à sa mort en fait, hein. Donc il a travaillé plus de 10 ans sur ses mémoires, qui étaient donc au départ en 9 fascicules, donc il en a fait un peu, peut-être pas un par un, tous les années. Alors non, ça couvre pas toute sa vie, ça s'arrête en 68.
Ceci dit, lui-même, il le disait, ou du moins, la clavetine en prologue à cette belle réédition de ses mémoires dit que à partir de 68, Ciné ne va pas connaître d'autres grands événements. Et pourtant, il était un observateur très attentif de ce qui se passait aussi bien en France que dans le monde.
Moi, j'ai l'impression qu'il est tout de même moins inspiré après, et moins concerné peut-être par le monde. C'est vraiment, pour moi, hein, c'est subjectif, mais c'est un dessinateur de l'après-guerre. C'est un dessinateur d'abord qui a connu la guerre, enfant, et qu'il raconte très bien dans ses mémoires, mais c'est un dessinateur, au fond, qui est un novateur, qui arrive avec quelque chose, un humour tout à fait nouveau, qu'on va appeler l'humour noir. Et qui va d'ailleurs recevoir en 58 le grand prix de l'humour noir, qui est tout à fait mérité. Et donc il y a ce dessin excessif, mais en même temps très simple, avec ces personnages très simples qui parlent à tout le monde en fait, qui sont pas des dessins compliqués, qui sont pas des dessins matu-vu, disons. C'est un dessin sobre, mais encore une fois dessiné à la plume, très 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 pertinent, c'est-à-dire toujours, voilà, c'est un coup dans une cible chaque fois.
Raconte l'histoire du XXe siècle vue par Ciné. C'est le XXe siècle vu par Ciné que les mémoires que vous réunissez dans vos cahiers dessinés.
Oui, c'est une partie du XXe siècle, mais c'est une partie importante. Et c'est surtout cette après-guerre, enfin la guerre et l'après-guerre. C'est aussi un dessinateur qui vient d'un milieu populaire. Et ça, il n'oubliera jamais d'où il vient. C'est très important de comprendre Ciné, parce que toute cette truculence qu'il a, son langage...
Ses engagements.
Oui, mais quand il écrit, il a un langage très, très fleuri, très argotique, mais c'est le langage de son milieu, c'est pas fabriqué. Et donc, pour répondre à votre question, évidemment, il va traverser non seulement la Deuxième Guerre mondiale, mais il va surtout traverser la guerre d'Algérie. Et pour lui, la guerre d'Algérie, c'est vraiment son engagement. Et c'est peut-être la chose, c'est là où il s'est le plus exprimé politiquement. Et il était vraiment engagé dans un moment où tout le monde ne pouvait pas s'exprimer aussi librement que lui, c'est-à-dire n'osait pas s'exprimer aussi librement que lui. Il a eu la chance dès 62 d'avoir sa page dans l'Express, et donc il était régulièrement, on lui refusait des dessins, mais tout de même il a réussi à vraiment décrire ce qui se passait et puis s'indigner de tous les excès de, pour lui, non seulement de la police française, mais après de l'OAS et tout ça. Donc c'est un engagement total qu'on peut ou pas partager, mais au fond, c'est vrai que c'est un témoignage, c'est un témoignage très rare en fait, et surtout fait par un dessinateur, et un dessinateur qui écrit et qui sait écrire et qui sait décrire toute cette période.
Et ce qui le différencie de ses amis Volinsky ou Cavanna, par exemple, c'est qu'il n'arrêtait pas de voyager, hein, laissant tomber des affaires en cours, des journaux à peine créés pour aller à l'autre bout du monde, rencontrer quelques révolutionnaires ou juste pour changer d'air.
Oui. Et puis, mais bon, chaque fois qu'il se rendait, notamment au Brésil ou à Cuba, où il était beaucoup à Cuba, ce qui
ou en Algérie où il a vécu,
ou en Algérie où il a travaillé même.
Ouais.
Il a fait du graphisme pour la Sonatrach ou ça.
Absolument. Il a même, il aura inventé leur logo.
Oui. Il avait une formation à l'école d'Estienne. Il avait une formation de graphiste. Mais évidemment, il sait, comme beaucoup de gens. Très à gauche, il s'est enthousiasmé pour la révolution cubaine. Et il a aussi déchanté quand même. Il l'a dit. Il est resté lucide. Il s'est enthousiasmé. Mais on peut pas dire qu'il soit resté borné dans un amour de Cuba immodéré.
Dès que j'ai trouvé l'idée ou pour dessiner, hop, je sors un disque ou j'écoute un disque, ça n'a aucun problème. Toujours du jazz pratiquement. De temps en temps, il y a une petite salsa ou un petit truc. C'est toujours les trucs qui dansent, enfin qui donnent envie de danser ou joyeux. C'est pas la musique classique, ça, j'y connais rien, j'en écoute pas, ça m'endort. Non, moi c'est Coltrane, Thelonious Monk, Mingus. Tous les gens qui me donnent envie de danser, King Cole, Sinatra, même, c'est pas toujours de très bonne qualité ce que j'écoute. Moi j'appelle ça, je les ai mis dans un truc qui s'appelle. Ah oui, soupe. Il y en a un, c'est soupe. I heard she sang a good song. I heard she had a style. And so I came to see her. To listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one aloud. I prayed that she would finish, but she just kept right on, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Killing Me Softly, ce n'est pas Frank Sinatra, c'est Perry Como. Et nous sommes avec Frédéric Pajac des Cahiers Dessinés, qui a publié donc en deux volumes, dans un coffret, les mémoires de Ciné qu'on vient d'entendre parler de la musique, parce qu'il aimait beaucoup la musique, Ciné.
Oui, c'était un grand connaisseur, il avait des centaines et des centaines de disques de jazz, et surtout de samba aussi. Donc il était, et d'ailleurs quand il est allé à Cuba, parce qu'on parlait de Cuba, évidemment, il a, ce qu'il a retenu de Cuba, c'est moins la politique.
Oui, la salsa, bien sûr. C'est quoi un bon dessin pour vous, Ciné? Je me souviens avoir posé cette question à plein de dessinateurs et j'étais très très surpris par la réponse de Ciné. Je vous rappelle que c'était en 2013 et c'était pour Un autre jour est possible, une interview que j'avais enregistrée chez lui.
Moi, le meilleur dessin que j'ai fait et celui dont je suis le plus fier et le plus content, c'est un truc que j'ai dû faire en 55 ou 60. C'est tous les prêtres autour d'un crucifix qui se foutent de la gueule d'un noir africain qui lui prie autour de son totem. Ils se moquent tous de lui sans se rendre compte qu'ils sont dans le même, à peu près la même situation et qu'ils aiment des amulettes, quoi.
C'est paru où?
Oh, ben d'abord, j'ai jamais pu le vendre. Au départ, les gens trouvaient ça choquant. Il n'y avait pas de support pour ça. Maintenant, dès que j'ai fait Ciné Massacre, c'était en 63, en quittant l'Express, ben je l'ai fait. Je me le suis fait moi-même, en fait, comme j'étais directeur de la publication. J'en ai fait une double page et puis il a beaucoup plu à Malcolm X, qui à l'époque avait été en plein, à New York, on parlait beaucoup de lui. Comme on se connaissait, il m'a demandé la permission de le reproduire dans Mohammed Speak, ça s'appelait, c'était le journal des Black Panthers, le Black Muslim, c'était pas Panther encore. Et le rédacteur en chef du journal a signé Mohamed Siné parce qu'il tenait à ce que ce soit un musulman, comme ils étaient un peu comme ça à cheval sur des principes là-bas. Mohamed Siné, qui m'a fait éclater derrière. Et puis finalement, ce dessin a fait le tour du monde. Petit à petit, il a été reproduit. J'en ai fait des cartes postales, j'en ai fait des cartes de vœux. Et puis les gens le trouvent bien. Et puis bon, et puis maintenant, c'est vrai qu'on a fait quand même des progrès sur la. On est plus cool sur les religions et surtout sur les cathos, quoi. Bon, on le ferait peut-être pas sur les autres religions, mais sur les cathos, on peut y aller. On peut y aller de plus en plus, quoi.
Ciné en novembre 2013, et au passage, et on peut d'ailleurs le constater en lisant ses mémoires dessinées, Frédéric Pajac, il a rencontré les plus grands leaders révolutionnaires du XXe siècle, Ciné.
Oui, on le voit.
Et pas seulement Malcolm X. Hein.
Oui, on le voit avec Fidel Castro et puis tous les gens du FLN, évidemment. Mais je crois qu'il aimait bien. C'est une époque curieuse où au fond les genres se mêlaient. C'est-à-dire que Ciné était en même temps avec des hommes politiques ou des leaders, enfin des hommes politiques révolutionnaires, ou qui se disaient révolutionnaires, mais il était en même temps aussi quelqu'un qui était proche des peintres et surtout des écrivains. Et il a connu beaucoup d'écrivains, notamment Jean Genet, avec qui il y a une correspondance dont on a reproduit dans l'édition des mémoires, on a reproduit certaines lettres en fac-similé.
Ouais, à la fin du deuxième volume, il y a quelques documents exceptionnels.
Hein. Oui. Il y a une lettre de Ionesco, il y a un mot de Queneau, Prévert et compte beaucoup, il est très ami avec Prévert. Il y a quand même, il y a Marcel Aimé, il n'est pas cantonné dans un monde de dessinateurs. C'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de gens, il est très ami avec Léonore Fini, par exemple. Et ce monde, il est ami avec ses éditeurs aussi, avec Jean-Jacques Pauvert, qui prend beaucoup de risques pour lui, puisqu'il édite finalement Ciné Massacre, qui est quand même un journal. Il faut quand même imaginer ce que c'est que de faire un journal tout seul en 1962 ou 63, en le distribuant avec des hommes sandwich dans les rues de Paris. Avec un grand dessin du général de Gaulle, la bouche ouverte, avec une bombe qui arrive dans sa bouche, c'est un dessin incroyable, je veux dire.
La Clavetine, dans sa belle introduction à ses mémoires que vous rééditez dans les cahiers dessinés, dit que c'est justement parce qu'il s'adressait à ce public qu'il a inventé son style, c'est-à-dire son style d'écrire à la main ses mémoires, ses textes, en mélangeant les dessins, les photos.
Mais son public, son public est aussi un public très populaire. C'est pas seulement un public de. Justement, il mêle autant des intellectuels. Il était vraiment ami avec des intellectuels. Et puis il mêle des gens du peuple. D'ailleurs, si on regarde ses dessins, il y a une chose qui est très particulière dans ses dessins, c'est qu'il ne s'attaque jamais aux faibles. Il s'attaque toujours aux puissants. Et c'est vraiment, c'est pas le cas de tous les dessinateurs. Et c'est vraiment une règle de conduite qu'il a inconsciemment, disons, mais qu'il a tenue, quoi, toute sa vie.
<t'-> Frédéric Pajac, diriez-vous que Ciné a été à un moment donné dépassé par l'époque, par les événements, où il a compris le monde jusqu'au bout, puisqu'il a dessiné pratiquement jusqu'au dernier jour de sa vie?
Moi, je crois qu'il aimait pas tellement je l'ai dit tout à l'heure, mais il aimait pas tellement son époque, enfin l'époque moderne, les dernières années. Je crois que ça l'intéressait modérément. Je suis pas sûr qu'il était très à l'aise dans Charlie Hebdo. Bon, il a été licencié du journal de façon tout à fait arbitraire et ridicule, mais je crois pas qu'il était très à l'aise dans cette époque, sous l'époque Sarkozy, tout ça. Je crois pas que c'était son...
Pourtant, il se défendait bien, hein. Il les attaquait bien, il avait gardé intact sa verve.
Tout à fait, mais je suis pas sûr qu'il était à l'aise dans cette époque. Alors que je trouve, et on le voit bien dans ses mémoires, dans toute cette après-guerre, tout se mélange, parce que je parlais des intellectuels, des écrivains, etc., mais aussi les musiciens. La musique compte énormément, on en a parlé avec le jazz et tout ça, avec la salsa, la samba, toutes ces musiques. Tout se mélange dans une époque qui découvre, c'est l'après-guerre, on découvre quelque chose, c'est les Trente Glorieuses, il y a beaucoup de contradictions dans la société, il y a beaucoup de violence, tout ça, mais il y a une effervescence que, je dois dire, il n'y a pas aujourd'hui, il faut quand même l'avouer.
Vous voulez dire aussi qu'il n'y a pas d'héritier à cet esprit d'anard de gauche qu'incarnait Ciné durant la deuxième partie du XXe siècle?
Bon, il a eu évidemment des héritiers immédiats qui étaient Reiser, qui étaient Charlie Hebdo, en fait, Wolinski, ça viennent de Ciné, ça c'est une évidence, et beaucoup de dessinateurs, même après eux, viennent de Ciné, des dessinateurs comme Charbe, tout ça, c'est des gens qui viennent de Ciné, ou Mix et Remix, il y a beaucoup de dessinateurs qui viennent de Ciné. Sauf que j'ai l'impression il n'y a plus un peuple derrière les dessins. Parce que chez Ciné, il y a un peuple derrière lui. Et moi, j'étais très frappé au moment où il a lancé Ciné Hebdo, à quel point c'était des gens vraiment du peuple qui aimaient ses dessins, quoi. C'est pas seulement des gauchisants ou tout ça, c'est beaucoup plus large que ça, parce que justement, on sent qu'il vient de là.
Alors, en relisant toutes ses mémoires, hein, puisque vous avez réuni tout ce qu'il a pu écrire sur une certaine période de sa vie, qu'est-ce qui vous a le plus mis mal à l'aise, Frédéric Pajac?
Alors moi, je suis pas toujours d'accord avec lui, évidemment.
Ouais, bien sûr.
Mais mal à l'aise, je suis pas mal à l'aise. Je suis pas d'accord avec certains de ses excès. Mais au fond,
par exemple, son amitié avec Jacques Vergès fait partie des excès.
Il en est revenu. Ouais. Alors, disons tout ce qu'on pourrait lui reprocher de ce point de vue-là, il en est revenu et il s'en est expliqué. Donc voilà, moi je comprends l'engouement. Pendant la guerre d'Algérie, Jacques Vergès a eu un rôle à jouer qui était important. Il a défendu quand même des gens du FLN qu'il fallait défendre. Et donc, comme Ciné était vraiment du côté du FLN, bon, c'était logique. Après, je crois que les dérives du personnage Vergès lui ont déplu, quoi. Il s'en est séparé. C'est un peu comme Fidel Castro. On le voit en photo avec Fidel Castro, mais après, les excès de Fidel Castro, c'est comme avec Mao Tse-tung. En fait, dans ses mémoires, on voit son enthousiasme, il le cache pas, mais après, on voit aussi sa déconvenue, quand même.
Et c'est des illusions, ouais.
Oui, c'est des illusions, oui, tout à fait. Donc, moi, il n'y a rien qui me met mal à l'aise, parce que c'est très riche, ces mémoires, parce que c'est en même temps, c'est vrai que c'est politique, et on peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est pas si important que ça. Mais c'est aussi toute cette France de l'après-guerre qu'il décrit très bien, aussi l'occupation. Il a 11 ans quand l'occupation, quand débute l'occupation, et ça il est un jeune anti-nazi forcené. Et puis il y a tous ces émois sexuels, parce que c'est très drôle, parce qu'il est vraiment c'est vraiment un dessinateur et un écrivain truculent, mais vraiment au sens strict, c'est-à-dire qui étonne par ses excès. Et il est excessif, mais il est en même temps aussi quelqu'un, voilà, il est l'auteur des Chats, et les Chats, c'est quand même c'est des millions d'exemplaires, je sais pas combien de... Donc ça a touché aussi un public extrêmement large, et puis il y a chez lui cet amour des chats, des animaux, toutes ses mémoires regorgent de chats, et c'est le côté tendre de... Voilà, c'est pas quelqu'un fait d'un bloc, c'est quelqu'un d'assez compliqué.
Et il se dessinait très bien, Ciné. L'intégrale de ses mémoires, donc, j'allais dire remasterisée, comme pour les films, mais retravaillée, sort en deux gros tomes grand format, dans un très beau coffret, édité par les Cahiers Dessinés. Donc, votre édition, Frédéric Pajac, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci à vous.